Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Qu'est-ce que le Rendez-vous Tech, vous demanderez-vous peut-être si c'est la première fois que vous écoutez cette émission? Eh bien, c'est très simple, c'est l'opportunité en une heure environ et dans la bonne humeur de vous tenir au courant de tout ce qui se passe d'important dans la tech, dans le monde d'Internet et des gadgets, ce qui est tellement important pour comprendre le monde plus vaste que nous habitons, puisque la tech touche à tout. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir d'une part Gaël Girardeau. Comment ça va, Gaël?
Bonjour Patrick, écoute, très bien. Et toi?
Ben, ça va très bien aussi. Je suis prêt à parler de questions hyper faciles à résoudre, comme par exemple, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir revendre ses biens culturels numériques? Tu es paré pour discuter de ça, par exemple?
Oh, ça, on a combien de temps, rassure-moi? 2 heures, 3 heures?
Écoute, 1 minute et demie environ. Non mais ça va, on va avoir des réponses hyper claires de notre ami patriote Aounchi Oshova, puisque c'est un épisode où on reçoit un Patreon d'un jour, un animateur d'un jour, un patriote top niveau. Comment ça va Aounchi, t'es en forme?
Ça va, en forme.
En forme.
Je ne suis pas très juridiquement parlant, mais on va y arriver.
Oui, de toute façon, on n'est jamais des experts sur ce dont on parle. On est bien sur Internet. Bon, merci de te joindre à nous encore une fois, Aounchi. Ça nous fait toujours très plaisir. Avant de se lancer, bien sûr, j'aimerais remercier. Alors, il y a quelques noms que je tiens à ne pas rater, notamment le dernier. Attention, les patriotes qui soutiennent l'émission. Évidemment, c'est grâce à eux que l'émission est ce qu'elle est. Et j'aimerais en remercier certains aujourd'hui: So Be It, Talak, François Piederrière, Thibaut Brugnot, Sylvain Doignon, Thierry Sainton, Anthony Capriaccio, Michael Rizzo, AP Condomine, Colline et Attache Tatuc avec de la broche. Et je dois vous dire que je suis très heureux qu'il y ait des patriotes du Québec qui nous soutiennent et je leur fais une salutation toute particulière aujourd'hui. Donc merci à tous les soutiens de l'émission, ceux-ci en particulier, et tous ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, évidemment. Donc comme je l'ai teasé un petit peu, on va parler de revente de biens numériques, on va parler de Facebook qui essaye de se décharger de décisions, mais pas tout à fait, on va voir, c'est peut-être une solution intéressante. On a bien sûr des impressions sur les nouveaux produits Apple et notamment les iPhone 11 Pro ou pas Pro et d'autres produits qui sont arrivés. On a des infos sur le nouveau Huawei, le Pixel 4 qui va arriver, etc. etc. Mais on se lance avec une décision qui a fait un petit peu l'effet d'une bombe dans le merveilleux monde de l'Internet il y a quelques jours de ça. Et on traitera de ce sujet dans le rendez-vous jeu qui arrive avec un angle plutôt jeu vidéo, puisqu'on parle spécifiquement de jeux vidéo, mais ça pourrait potentiellement affecter l'ensemble du monde numérique et de la possession de biens numériques à terme si les choses continuent à évoluer. De quoi est-ce que je parle? Il y a quelques années de ça, UFC Que Choisir a assigné la société Valve, qui est une société qui aujourd'hui principalement vend des jeux vidéo. Ils ont leur magasin en ligne Steam et ils vendent des jeux vidéo, sauf que comme tous les systèmes de ce type, et en particulier dans le monde des jeux vidéo, un achat de jeux vidéo sur cette boutique de jeux vidéo n'est pas réellement un achat au sens où on l'entend dans le monde, dans les termes du monde réel. C'est-à-dire que on ne possède pas vraiment l'objet qu'on achète. On en a plutôt une licence, on va dire perpétuelle d'utilisation. Dans les faits, concrètement, ça change pas énormément de choses dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'on achète le jeu, il est téléchargé sur notre disque dur. On ne peut pas aisément le copier d'un endroit à l'autre. Il faut toujours être connecté au magasin au moins une fois par mois pour pouvoir continuer à l'utiliser. Il y a eu un système de DRM, de gestion des droits numériques qui est assez verrouillé, comme c'est le cas dans de nombreux magasins d'achat de biens numériques. Et UFC Que Choisir a donc assigné Valve en justice en France. Pour un certain nombre d'articles de leurs conditions d'utilisation que l'UFC Que Choisir estimait contrevenir au droit français, et celle-ci est la plus importante, j'en viens au sujet principal. On n'a pas Valve s'oppose à la revente de jeux quand on en a acheté un sur leur magasin. En gros, ce qu'a dit le tribunal, le tribunal dans ce cas, c'est que Valve ne peut pas s'opposer à la revente de jeux. Alors, il y a plein de conséquences à ça, et toutes les conséquences ne sont pas aussi claires qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que on pourrait, même si Valve décide que pour se mettre en accord avec la loi, ils vont autoriser la revente de jeux. On ne sait pas comment ça se passerait. Est-ce qu'il y aurait un système de revente dans le magasin? Est-ce qu'eux, ils ne changeraient pas tout simplement leur système de vente à la base pour dire bah, on vous vend une licence pour 20 ans qui est non transférable et ce n'est pas donc l'équivalent d'un achat d'objets physiques, etc., etc. Mais il n'empêche, même si Valve a évidemment fait appel, ça pose cette question qui, de prime abord, pourrait avoir une réponse simple. Est-ce qu'il est souhaitable que nous puissions revendre nos objets numériques de la même manière qu'on peut revendre nos objets physiques? Et donc, on en plaisantait tout à l'heure, je me retourne vers Gaël. À ton avis, est-ce que, bah, tout simplement, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça serait une bonne chose? UFC Que Choisir ouvre une brèche qui risque de s'ouvrir jusqu'aux tribunaux européens. Je pense qu'il va y avoir des appels pendant des années, donc on n'est pas encore aux conséquences tout de suite. Mais est-ce que, finalement, la manière dont s'est développé Internet, avec le fait que généralement on ne peut pas revendre les objets numériques qu'on achète, est-ce que c'est pas néfaste pour les consommateurs?
Alors, d'abord, moi, je suis ravie parce que je vais pouvoir revendre toute la collection Steam de mon mari. Donc, je trouve ça formidable. Lui va te dire qu'il est moins content.
Oui, j'imagine qu'il aura un avis un petit peu différent sur la chose.
Donc, tu vois, c'est pas si évident que ça. Non, plus sérieusement, effectivement, ça commence par l'industrie du jeu vidéo, mais ça, effectivement, ça concerne du coup derrière bah, tous les autres, hein, les livres, la musique, les vidéos. Donc, quand on ouvre la brèche, bah, derrière, c'est le début de l'iceberg, hein, tout simplement. Et surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas une réponse oui ou non. C'est comment tu l'encadres et quelles sont les règles et à quoi il va falloir penser, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Il y a les plateformes, il y a les auteurs, les développeurs. Il y a beaucoup de monde que ça implique, que ça impacte. Donc, c'est comment tu gères tous ces gens qui sont impactés. En tant que consommateur, en tant que numéro un consommateur, on ne va pas se dire c'est une mauvaise chose. Tu es content, un, de pouvoir acheter d'occasion, et deux, tu es content de pouvoir revendre d'occasion comme tu le faisais auparavant. Donc, le consommateur, je ne vois pas en quoi c'est néfaste, si toute chose étant égale par ailleurs, hein, pour le consommateur.
Ben justement, moi, alors, c'est évidemment l'avis qu'on va voir fleurir le plus souvent, parce que ça met en miroir des choses qu'on pouvait déjà faire avec les objets physiques. Moi, j'ai un avis qui est peut-être, pour prendre le contre-pied, mais qui a ses justifications, un avis un petit peu différent, parce que même si ça n'a pas d'effet direct sur le consommateur, ça peut avoir un effet sur l'écosystème en général qui pourrait être néfaste. Et j'aimerais Oui, non, Gaëlle, t'es d'accord?
Je suis complètement d'accord. Mais justement, ça s'encadre et c'est faire en sorte que ça soit positif aussi pour l'écosystème. Et je pense qu'il y a moyen de le rendre positif pour l'écosystème.
Mais alors, il va falloir bien posons réfléchir. Ouais, mais c'est ça.
Oui, je suis d'accord, il y a moyen de le rendre positif. Aujourd'hui, quand tu vends un bien physique d'occasion, le créateur de ce que tu as vendu ne touche rien. Pourquoi ne pas passer par les plateformes Steam ou autres, ou quand je vais vendre mon jeu d'occasion, effectivement moins cher que le neuf, on est d'accord, et ben la plateforme, comme le créateur du contenu, a pour moi, ça part de revenus, parce que je revends un bien qui m'appartient, certes, donc j'ai un revenu parce que le bien était à moi, mais le bien a été produit et mis à disposition par deux autres entités qui, pour moi, devraient légitimement aussi récupérer les fruits de cette vente.
Ben, c'est une possibilité, effectivement, et c'est un système que certains ont préconisé, d'ailleurs, mais au niveau... j'imagine que je parle de droit, mais je parle peut-être même au niveau philosophique. Si on a le droit de revendre cet objet, c'est parce qu'il nous appartient. Et s'il nous appartient, si on en a pris la possession entière quand on a payé son prix et qu'on est passé dans un contrat avec une boutique, ça veut dire que la chose n'appartient plus ni à son créateur, ni à la boutique qui nous l'a vendue. On pourrait tout à fait se poser la question de se dire, même si tu as tout à fait raison, Aounchi, il y a plein de gens qui ont préconisé la chose pour que justement ça n'assèche pas les vendeurs, enfin les créateurs, de se dire, bah, ils retoucherait une partie de la somme. Mais philosophiquement, ça veut dire qu'il ne m'appartient plus vraiment, cet objet. Et au-delà de ce problème, en fait, là, on a presque sauté une étape. On est en train d'essayer de résoudre le problème qui est posé par un élément que certains ne considèrent pas forcément, ne prennent pas en considération, qui est que, contrairement au monde réel, les objets numériques ne s'usent pas. Et cette usure... c'est le cœur de la problématique de la revente des objets en ligne.
Je ne suis pas 100% vrai avec cet argument-là. Quand tu prends un CD ou un Blu-ray ou un DVD que tu revends, tu as effectivement une dégradation physique du matériau, mais c'est physique. Mais enfin, à ce compte quand même, en un certain nombre de temps quand même relativement long, et c'est pas le fait de mettre mon joli disque dans ma Xbox One préférée ou dans ma PS4 si j'en prends relativement soin. Évidemment, si je m'amuse à le lancer par terre, à le rayer, effectivement, je vais détériorer, même là, je veux dire, au risque qu'il ne soit illisible, donc je ne peux même plus y jouer, même plus le revendre.
Non, mais c'est même pas, même si tu en prends soin, Aounchi.
Même des biens numériques, parce qu'un jeu vidéo que tu achètes, il est numérique, il est juste. C'est là où il est stocké que ça change. Soit tu le stockes sur un support physique, une cartouche, un DVD, un Blu-ray, un CD-ROM, une disquette dans le temps. D'accord ?
Oui, mais c'est un bien physique. Quand on parle. Non, mais attends. Quand on parle. Aounchi, attends une seconde. Quand on parle de bien numérique, on le met en opposition à un bien physique, que ça soit un CD, une cartouche. Le fait que sur le support il soit numérique, ça n'a pas d'importance. C'est un bien physique qui va pouvoir s'user, qui va être passable d'une personne à l'autre et qui n'est pas mis en compétition avec toutes les copies en même temps. Quand c'est un bien numérique, la suite logique de cette question, c'est pas. Patrick va prendre son jeu numérique qui a été acheté et il va aller le revendre sur le bon coin. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme tout le monde est en compétition dans l'univers numérique, on va avoir des jeux d'enchères avec des hôtels de vente, et quand on va vouloir acheter tel jeu, eh ben on va pas aller regarder toutes les versions qui sont offertes. On va prendre la version la moins chère, et il va y avoir évidemment des algorithmes qui vont vous faire la version la moins chère, et donc le jeu sera toujours disponible pour tout le monde au prix le moins cher auquel il est disponible dans le monde. Et ça a un effet hyper pervers sur la valeur des choses. Et dans la revente, c'est pas moi je vais te filer ma cartouche ou mon CD qui soit numérique à Aounchi ou Gaël, mais je vais aller sur un site et je vais directement avoir accès à la personne qui le vend le moins cher possible. Donc même pour les utilisateurs qui se disent « Ah ben je vais pouvoir me faire un petit peu de sous », je suis pas convaincu qu'on va se faire vraiment des sous, c'est pas comme ça que ça va marcher.
Donc le problème n'est pas le revendre de biens numériques, parce qu'aujourd'hui, quand tu achètes un CD-ROM logiciel, par exemple, tu n'achètes pas un CD, tu achètes une licence d'utilisation. Typiquement, il suffit de regarder ce que fait Microsoft pour les entreprises quand ils distribuent Windows. Ils ne distribuent pas des CD, ils distribuent des clés de licence. Donc,
oui, mais ce n'est pas le cas les jeux ou les DVD. Là, on achète effectivement un média physique.
Quand tu achètes un jeu vidéo, tu achètes typiquement, on va chercher un petit jeu pas très connu, Overwatch. Tu vas acheter ta boîte d'Overwatch. ce que tu as besoin pour jouer, c'est la clé de licence qui est dans la boîte. Tu peux installer Overwatch.
C'est vrai qu'il y a des, il y a des cas particuliers, mais si tu achètes un autre jeu comme Assassin's Creed, bah, tu as le CD et ça te suffit pour jouer, évidemment, en téléchargeant les mises à jour, mais l'objet physique lui-même te permet de jouer. Donc, il y a des cas où c'est le cas, des cas où ce n'est pas le cas. Je suis d'accord.
Mais... Et c'est là où intervenait Gaël, où elle disait c'est la législation qui doit intervenir. Par contre, effectivement, ce que tu mets en lumière, c'est la possibilité facile et aisée d'intermination de mettre en concurrence tout ça. Et effectivement, il est là le problème. Pour moi, ce procès-là pose une question philosophique qui est la propriété de biens numériques vs propriété de biens physiques. Et c'est pour ça que pour moi, le procès, je trouve extrêmement intéressant et même très quelque part, ça posera de vraies questions de fond que Valve ait été condamné. Il y aura effectivement des appels parce que ça pose clairement sur la table le débat du que signifie la propriété numérique. C'est une question qu'on a éludée depuis des années, depuis presque le début de l'Internet. On l'a toujours éludée. Qu'est-ce que signifie le côté propriété numérique ? Quand on va sur n'importe quel site de vente d'objets numériques, ils nous demandent d'acheter. Et quand on achète la propriété. Seulement la propriété numérique.
Ah, c'est la licence, eh ben, oui.
Eh ben, c'est là où ça devient compliqué.
Ouais,
pour moi, je pense que ce procès-là, on le voit bien dans certains articles, on voit que Valve a été soutenu par diverses personnes de l'industrie. Et effectivement, ça va bouleverser potentiellement l'industrie parce qu'on remet en question la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien justement, la propriété numérique telle qu'elle a été définie jusqu'à aujourd'hui, moi je me demande si elle n'a pas pris son chemin naturel, un petit peu comme la sélection naturelle à l'ère du numérique, pour prendre sa forme optimale. Là je me retourne vers Gaël. Étant donné tous les problèmes dont on a parlé, le problème de la rétribution des auteurs, parce qu'un autre élément qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on a des soldes incroyable, des prix qui se sont abaissés sur toutes ces plateformes pour s'adapter au fait justement qu'une fois un bien acheté, bah, il était acheté, il ne revenait plus en circulation et donc les prix sont descendus. Si jamais on pouvait revendre les biens qu'on a achetés en numérique, il n'est pas du tout impossible, il est même probable, je crois, que les prix à la vente de base remontent parce que, justement, bah, y aurait plus de biens en circulation, etc. Gaël, est-ce qu'il ne serait pas juste de dire que cette sorte de sélection naturelle a amené la situation de la vente de biens numériques sans législation là où elle devrait être ou alors, est-ce que... Enfin, je ne sais pas, moi, il me semble qu'il n'est pas... inconcevable que la situation telle qu'elle s'est établie, contrairement à de nombreuses autres situations dans le domaine du numérique, soit en fait pas si problématique que ça aujourd'hui.
Le fait de ne pas pouvoir le revendre, tu veux dire ?
Bah c'est ça, le fait de ne pas pouvoir le revendre, c'est intégré à tous les niveaux de la chaîne, et donc les prix ont baissé, on a des soldes incroyables, les jeux baissent de prix assez vite parce que justement, il n'y a pas de revente possible, donc ils viennent après 2, 3, 4 mois prendre la place des prix en seconde main en baissant les prix, neufs, entre guillemets. J'ai l'impression que l'écosystème a évolué en intégrant cette donnée qu'on ne peut pas les revendre et donc tout s'est adapté et que venir maintenant dire on peut revendre, si on venait dans 405 ans dire on peut revendre les jeux en seconde main, eh ben, ça poserait plus de problèmes que ça n'amènerait de solution.
Et en fait, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est de dire justement, en fait, c'est la façon dont on a vendu les choses. C'est qu'aujourd'hui, on a dit, on vous le vend et ça vous appartient, vous en êtes propriétaire. Donc effectivement, à partir du moment où tu en es propriétaire, bah, tu te dis, j'en fais ce que j'en veux. Donc je pense qu'il faut revoir les conditions et dire, et je crois que je l'ai vu d'ailleurs plusieurs fois écrit quelque part, c'est de dire, bah, en fait, finalement, on va donner des licences à durée déterminée et on va dire que ça dure tant de temps. et ça réglerait une partie du problème. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est déjà de bien définir finalement le bien numérique. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est un droit d'usage à un temps donné? Donc ça, effectivement, de toute façon, il faut le
peut-être
il faut
recadrer
bien
les choses,
le
oui,
recadrer
en ne prétendant pas qu'on vend l'objet. Oui, bon,
exactement.
Je comprends.
Bah, c'est bêtement de la loi. Hein.
Oui, oui, non, tu as raison. Une vente, ça veut dire quelque chose juridiquement, et donc, là, de voilà, fait, oui, ce qu'on fait chez Valve, par exemple, c'est pas un achat, ouais.
Le deuxième point, c'est peut-être de dire, est-ce qu'il y a moyen, et c'est peut-être pas la solution, hein, mais une piste, c'est de dire, reprendre ce qui a été fait pour la chronologie des médias et l'adapter pour le jeu vidéo, et c'est de dire, bah, finalement, un film quand il sort, alors ça a été changé depuis d'ailleurs, mais c'est passé une fois qu'il était sorti, il avait le droit de sortir en DVD un an ou six mois ou trois mois après, etc. etc. Et de dire, bah, pour les jeux vidéo, c'est pareil, finalement, après une sortie, il doit avoir plusieurs temps possibles. Le premier temps, c'est la vente officielle. Le deuxième temps, c'est les bundles où le tarif est dégressif, et ce qui fait que s'il lui redonne une deuxième vie, et lui redonner une troisième vie peut-être, et de dire, bah, finalement, le marché de l'occasion est autorisé à partir de, après à définir, 2 ans, 3 ans, et finalement, quand il n'y a plus tout, et ça pourrait redonner une vie finalement à des jeux qui, de toute façon, ne se seraient pas revendus, même à des tarifs très dégressifs.
Bah, c'est intéressant comme idée, mais j'ai l'impression que, d'une manière générale, toute cette réflexion que mène l'UFC Que Choisir, et effectivement, il y a une question légitime de droit dans le statut d'une vente. Et d'ailleurs, bah, comme on le disait, comme on l'a tous dit, Valve pourrait tout à fait dire, bon, bah, on ne vous vend pas le jeu, on vous vend une licence d'utilisation sur 25 ans du jeu, et le dire comme ça dans les petits textes en bas, et peut-être que ça réglerait le problème juridiquement. J'imagine que c'est vers une solution de ce type qu'on se dirigerait, mais j'ai l'impression qu'on essaye de faire rentrer au forceps le concept de la vente dans le monde physique dans le contexte numérique, et que ça collerait pas forcément, parce que tous les aménagements que tu décris, Gaël, en fait, sont déjà mis en place aujourd'hui avec des réductions de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 3 mois après, on commence à avoir des prix diminués de 30-40% sur les jeux qui sont sortis. Un an après, on a des soldes incroyables qui nous permettent d'avoir le prix du jeu, le jeu au prix, à un prix vraiment très bas, et qui rémunère déjà le créateur du jeu, qu'il soit indépendant. D'ailleurs, les indépendants seraient beaucoup plus affectés par ce type de problème que les grosses sociétés, mais qui rémunère donc le créateur du jeu et le magasin, de la même manière que le décrivait Aounchi, ou quand on disait, ah bah, il faudrait peut-être des systèmes pour rémunérer, machin. Bah, ok, en théorie, ça se passe pas exactement comme ça se passe dans le monde réel, mais en pratique, la rémunération se fait déjà sous ces formes-là. Donc, bon, c'est pour ça que je me dis, on est peut-être un petit peu en train d'essayer de faire passer au forceps le truc.
C'est l'ancien monde contre le nouveau monde, c'est toujours cette nouvelle guerre. Ouais. Et c'est l'ancien monde qui dit, bah, nous, on a subi la révolution numérique, et bah, maintenant, on va vous obliger le numérique à subir votre propre révolution numérique contre le numérique.
Bah, généralement, c'est ça qui est le cœur du problème. J'ai l'impression que là, c'est plus... Si on va vraiment au fond du fond, c'est ce que tu disais, Gaël, c'est la question de la signification légale des termes. Et l'UFC Que Choisir, qui s'en saisit, comme c'est son rôle d'ailleurs, pour la défense du consommateur, mais au final, je ne suis pas certain que s'ils arrivent à leur fin, le consommateur en ressorte favorisé au final. Parce que, comme
et
je
surtout,
disais, ce système de... C'est garanti qu'on arriverait à un système d'hôtel des ventes qui vous trouve immédiatement le prix le plus bas, ce qui est bien si on veut acheter, mais si on veut vendre, c'est pas génial. Si on est le créateur, c'est pas génial, etc. etc. Mais pardon, et surtout...
Oui, mais ne serait-ce que...
Attends, je veux juste redonner la parole à Gaël, et puis je te dis après.
Non, enfin, surtout, c'est pas comprendre finalement les nouvelles tendances et les nouvelles générations. On n'est plus sur le monde de la propriété. Si tu regardes toutes les nouvelles tendances, c'est je partage tout, je partage ma voiture, rien ne m'appartient.
Ouais. Et à la limite, on est sur des formules d'abonnement, quoi, et on y arrive dans tous les domaines.
C'est ça, et c'est vraiment dans tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as plus besoin d'avoir les jeunes, ils ont plus besoin de voiture et ça se loue partout. Tu peux partager un voyage, un conducteur, etc. Enfin, on n'est plus dans ce monde de la propriété pure. Et effectivement, c'est pas comprendre ces nouvelles tendances-là de vouloir absolument reparler de propriété. Mmh. Mais en tout cas, ça soulève le débat et ça nous amène vers des. Enfin, je pense que le débat est intéressant. Ça amène l'écosystème aussi à repenser les choses et ça va peut-être amener des bonnes choses.
Ouais. Aounchi, je te donne la parole et puis on avance.
Moi, je pense qu'in fine, on ne va pas forcément autoriser la vente d'occasion, mais par contre, ça va certainement clarifier ce que c'est l'acte d'achat d'un bien numérique. Mmh. Aujourd'hui, c'est un peu, voire totalement flou. Effectivement, le public du rendez-vous tech est bien au courant que quand ils vont acheter quelque chose de numérique, un bien numérique, je ne parle pas d'un service, effectivement, je parle bien d'un bien numérique, ils savent que c'est une licence d'utilisation, que je ne peux pas la revendre, que je ne peux pas la léguer en cas de décès, que je ne peux pas faire ce genre de choses. Mais on a beau être aussi beau et magnifique qu'on veut, on n'est pas la majorité de la planète, loin de là. Et je pense que ce que va faire le FCQGJ, on ne va pas forcément faire avancer les choses, mais au tout du moins, si le gros bénéfice est de clarifier ça pour tout le monde, eh ben quelque part, on aura gagné quelque chose.
Oui. Oui, tout à fait. Je m'aligne complètement sur cette conclusion. Alors, le deuxième sujet que je voulais traiter et pour lequel je voulais vous poser la question, Facebook, toujours en train d'essayer de se dépêtrer de la grande problématique qui se pose à eux aujourd'hui, c'est de prendre les décisions sur le contenu généré par leurs utilisateurs. Et évidemment, quelle que soit la décision qu'ils prennent, d'une part, il y a des gens qui leur demandent de prendre des millions de décisions très très vite et de prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, ce qualificatif dépend de la personne qui observe la décision. Quelle que soit la décision qu'ils prennent, il va y avoir une partie des observateurs et des utilisateurs qui va être satisfaite et une autre partie qui va être très mécontente et qui va faire savoir ce mécontentement. Généralement, je crois même qu'on peut dire que c'est limite moitié-moitié, quelle que soit la décision. Donc, c'est très difficile de se sortir de cette problématique. Évidemment, on parle de suppression de contenu controversé. Hein. C'est de ce problème essentiellement qu'on parle ici. Eh bien, ils ont commencé à travailler sur une énième solution qui pourrait peut-être être plus efficace que les autres. C'est la constitution d'un comité de surveillance, on va dire, un oversight board, qui sera composé à terme d'une quarantaine de membres, avec une partie de ce comité qui serait un comité de sélection et qui attribuerait les différentes décisions à une partie des membres du comité qui serait entièrement extérieur ou on va dire aussi détaché de Facebook que possible. Dans les cas où il y aurait une problématique très compliquée qui aurait besoin d'une décision plus ferme que d'autres. Évidemment, ça ne sera pas le cas pour toutes les décisions que doit prendre Facebook, parce qu'il y en a, comme on disait, des millions par jour et par semaine. Il référerait cette problématique au comité, et le comité attribuerait la décision à un de ses panels de membres, et la décision serait irrévocable pour Facebook. C'est-à-dire que Facebook externalise un petit peu cette prise de décision, ils établissent le board, mais ils établissent une partie des membres, une petite partie qui ensuite va devoir en recruter d'autres, et ensuite, on l'espère, ils seront aussi objectif ou aussi non controversé que possible, mais quoi qu'il en soit, d'ici la fin de l'année prochaine, on va dire novembre de l'année prochaine, c'est leur but, eh bien, elle sera contraignante, la décision sera contraignante pour Facebook. Donc, si un jour, on a un sujet qui est très controversé. On va parler d'un personnage politique qui dit quelque chose d'inacceptable, d'un humoriste qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, d'une chaîne d'information qui dit quelque chose qui n'est pas acceptable, des trucs très publics de ce genre-là. Facebook n'aura plus à prendre la décision entre guillemets eux-mêmes. ils, dans ces cas un petit peu high profile, qui font beaucoup de bruit, ils réfèrent le problème au comité. Et le comité, qui sera donc, encore une fois, je le précise, hein, constitué de membres extérieurs, peut-être de gens qui sont philosophes, qui parlent des questions d'éthique, qui sont des avocats ou des juges ou des anciens juges, etc., ou des journalistes, qui sait, des gens respectables, ils prendront des décisions et Facebook s'y tiendra. Je trouve que c'est une solution qui n'est pas inintéressante, qui, de but en blanc comme ça, je dirais, est peut-être même une bonne manière de faire les choses. C'est la moins pire, peut-être, de ce que j'ai entendu jusqu'ici. Mais je suis curieux d'avoir votre avis. Gaël, est-ce que c'est la solution pour enfin que Facebook ne soit plus critiqué, quelle que soit la décision qu'ils prennent ?
La solution, elle n'existe pas. C'est un problème qui est impossible. Je pense que tu l'as très bien dit, c'est la moins pire des solutions. Comme il y aura toujours des gens qui seront contre les décisions qui sont prises, on pourra toujours critiquer le board parce qu'on ne sera pas content et on dira il n'y a pas assez de diversité, il n'y a pas assez. Ou ça pourra même être des problématiques culturelles. On va dire en Europe, ce contenu il passe très bien, mais il ne passe pas en Asie ou aux États-Unis. Enfin, c'est tellement subjectif qu'il y a des... À part que ce soit une cour de justice qui prenne une décision, et même là, on arrive toujours à le critiquer. Mais ils n'ont pas le choix. Et je pense qu'effectivement, avoir un board, c'est une première piste. Le déporter, ils sont obligés parce que de toute façon, s'ils le font en interne, c'est critiqué. Donc, ils le déportent. On va critiquer, quoi qu'il arrive, le board qu'ils vont choisir. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils vont les garder anonymes, si j'ai bien compris, certains.
D'être anonymes, effectivement. Et juste pour préciser, ils choisissent les cinq premiers membres. Et à partir de là, les cinq premiers membres sont en charge de construire le board qui aura une quarantaine de membres. Ils ont une limite dans le temps, c'est pas plus de 9 années pour chaque personne d'être sur le board. C'est avec des contrats, entre guillemets, de 3 ans. Et puis, c'est pas une position à temps plein. Ils auront un boulot ailleurs. C'est vraiment pour prendre les décisions. Mais oui, ils font la base de la construction et après, ils le laissent un petit peu comme Libra, j'ai l'impression. Il le laisse s'envoler, ouais.
C'est ça.
Aounchi,
Facebook crée une instance juridique pour gérer les médias, en fait.
Ouais, les médias ou le reste, mais oui, c'est tout à fait ça.
Le fait du contenu, c'est le principe d'une instance juridique, c'est-à-dire quelque chose qui est apolitique, qui n'a aucun rapport plus ou moins avec les sociétés où on émet des plaintes et ces personnes jugent, parce qu'en fait c'est le mot, si elle est valide ou pas, si on doit retirer ou pas. C'est le principe d'une cour juridique. C'est le principe d'une cour juridique. Et c'est un peu ce que tu disais, Patrick, il y a quand même quelques temps, à bon escient. Qui a autorité pour dire dans nos sociétés, le contenu est valide ou pas? Il suffit de regarder ce qui se passe sur les articles de journaux ou autres. C'est une cour de justice. Aujourd'hui, nos cours de justice, peu importe quel état dans le monde, ne peuvent pas gérer le flux en temps réel qui arrive sur Facebook. C'est juste impossible. Donc Facebook, de lui-même, crée cette cour de justice et ils ont tout à fait raison de la mettre à l'écart. Aujourd'hui, ils vont mettre, on va dire, le coup de starter en nommant des personnes, mais dans quelques années, je pense qu'il va s'attaquer quelque chose à la manière de la Cour fédérale américaine, où en fait ce sera nommé par d'autres personnes.
Mais c'est peut-être par la Cour elle-même qui continuera, oui. Et puis la grande différence, je trouve, avec une Cour de justice étatique, c'est qu'ils n'auront pas à juger tous les cas que leur amènent les citoyens. C'est Facebook eux-mêmes où ils vont dire, bon, quand on a une décision qui est compliquée, on va la mettre devant ce comité. Et donc, ils choisiront, ils n'enverront pas plus de cas que le comité ne peut traiter a priori. Et je crois que c'est une solution qui peut peut-être fonctionner. Bah, comme on le disait, comme tu le redisais, Gaël, c'est peut-être la moins pire. Je me demande s'il ne faudra pas un comité par pays, finalement. Parce que quand tu évoquais les différences culturelles entre les différents pays, immédiatement, j'ai compris que tu avais parfaitement raison, parce que les choses qui se décident aux États-Unis ne se décident pas de la même manière en France. Et déjà, là, donc, il faudrait un deuxième comité. Peut-être que si ça fonctionne, on aura un comité par pays. Je comprends. Là encore, c'est un petit peu... Je comprends la peur, comme avec le passage de la propriété physique à la propriété numérique qui n'est pas la même. Je comprends la peur que ça peut créer de se dire « Ah, mais déjà, ils sont en train de se créer leur propre monnaie. Là, ils sont en train de se créer leur propre juge, finalement. » Mais on n'a pas d'autre solution, là. On est encore dans un cas où c'est la moins pire. Donc,
On les a poussés.
Ouais, complètement.
Ça aussi, hein, et c'est normal. On leur a dit, vous, tout ce que vous faites, c'est critiquer. Vous prenez pas les bonnes décisions et vous êtes jugé parti. Voilà, donc ils disent, bon, bah très bien, on n'est plus jugé parti et on pousse ça à un board parce qu'on va dire que si on le laisse, nous, c'est parce qu'on souhaite que, en général, les sujets les plus critiquables qui restent sur Facebook, controversés, sont ceux qui cliquent le mieux et qui engagent le mieux. Donc Facebook a tout intérêt à les laisser. Donc effectivement, le déporter à un board, au moins ça leur enlève, ce reproche qu'on peut leur faire.
Je me demande s'il ne serait pas, alors idéalement, on l'a dit, on l'a répété, idéalement il faudrait que les instances judiciaires se saisissent de ce genre de problème, mais on a suffisamment expliqué pourquoi ce n'est pas possible concrètement, même si ça serait idéal. Je me demande si une solution intermédiaire ne serait pas alors si c'est l'État qui le fait, ça serait, encore une fois, on revient à la question judiciaire, mais que quelque chose qui soit plus détaché encore de Facebook, comme une association de l'industrie. Peut-être que plusieurs réseaux sociaux pourraient se mettre ensemble, les GAFAM et les acteurs de l'industrie, et peut-être même avoir des groupes de consommateurs ou de citoyens qui seraient associés à une telle initiative, qui constituerait un comité qui est donc extrajudiciaire mais consultatif pour les sociétés en question, parce qu'encore une fois, il faut bien le comprendre, les décisions qui sont prises par ce comité et qui sont respectées par Facebook n'ont pas valeur de décision juridique. C'est juste pour faciliter leur propres décisions à eux qu'ils prendraient de toute façon. Donc, si on veut avoir un recours juridique, on y a de toute façon accès en tant que citoyen. Ça ne change pas. Donc, peut-être qu'un comité qui soit encore plus séparé de Facebook, qui soit un comité d'une industrie, de l'industrie tech ou de l'industrie des...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les réseaux sociaux, de la communication, etc. Peut-être même y associer des instances de presse, des groupes de presse, ou Dieu sait qui, je ne sais pas, je lance des idées comme ça, mais peut-être que c'est une solution, que la société civile s'attelle à cette tâche et que ça pourrait être un comité auquel peuvent se référer les grandes sociétés qui ont des problèmes difficiles à résoudre, des décisions difficiles à prendre, et demander l'avis de ce comité. C'est peut-être une direction à explorer parce qu'on n'en a pas de meilleure, quoi.
Mais en fait, on reconstitue une cour de justice, hein, t'as raison.
Non,
et le
fait,
fait. D'avoir un comité global de l'industrie par tout le monde qui se met d'accord, plus finalement des jurés,
ouais.
La société civile, non mais c'est ça, et qui sont guidés par un juge, et finalement le juge, c'est
non, mais là, ça reproduit trop le schéma.
On est dans la même chose.
Ça s'appelle le CSA en France.
Non, le CSA est quand même une institution étatique. C'est quand même géré par le gouvernement. Oui. C'est pas.
Oui, mais c'est l'industrie civile, enfin l'État qui a créé une commission, le CSA, pour réguler l'audiovisuel. Si bien évidemment il y a des débordements sur l'audiovisuel, tu finis après dans la cour de justice.
Oui, tu veux dire que c'est l'avant-juge, quoi, effectivement.
Exactement,
il y a peut-être un petit
ça
peu
ressemble
de...
à ce que va faire Facebook, sauf que là, c'est Et là où je trouve que c'est dommageable, c'est que c'est Facebook qui le fait de lui-même. Ce n'est pas, là où tu disais, Patrick, ce n'est pas la société civile qui s'est dit, on n'arrive pas, on tape sur le dos de Facebook, ouais, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien ce que vous faites.
Mais peut-être mais qu'il aurait fallu qu'ils prennent
une... C'est pas bien, on les aide pas pour dire, attendez, on va essayer de vous aider.
Bah, peut-être que Facebook montre la voie pour s'auto-réguler d'une certaine manière. Et oui, peut-être qu'il y a une étape entre... T'as raison, finalement, Unchi, entre le CSA et Facebook qui prend les décisions en interne. C'est cette solution qu'ils sont en train de proposer. Peut-être qu'il est possible de la reprendre juste... un étage au-dessus et de la séparer encore un petit peu de Facebook. Bon, là, on fait des plans sur la comète. En tout cas, ce qui va se passer, c'est ce oversight board qui va être mis en place d'ici un an pour Facebook et on aura le temps de voir si ça marche ou pas et peut-être de s'en inspirer si ça fonctionne et de continuer à leur taper dessus avec raison si ça ne fonctionne pas. Bon, bah écoutez, c'est déjà deux gros sujets qu'on a abattus. Avant de continuer avec des sujets un petit peu plus légers et les photos de nuit que prend l'iPhone 11 Pro, j'aimerais vous parler deux minutes de Patreon et de l'extraordinaire action des patriotes qui soutiennent le contenu qu'ils apprécient. Si vous appréciez le Rendez-vous Tech, si vous l'écoutez depuis un moment, dites-vous que peut-être ça serait intéressant de le soutenir financièrement. Ça serait intéressant évidemment parce que vous avez le plaisir de soutenir le travail de qualité que je vous propose. J'espère en tout cas que c'est votre avis. Et puis, vous avez aussi le plaisir d'avoir des petits bonus de différentes natures. Pour tous les soutiens, vous avez accès au flux du podcast privé des Patriotes, qui est d'une part sans publicité, bien sûr, mais aussi avec des contenus supplémentaires, des éditos, des petits positrons avant leur sortie en public, etc., etc. Vous avez à des niveaux supplémentaires l'accès par exemple au Slack, qui est une communauté extraordinaire. Quand on dit que l'internet est un petit peu agressif et négatif, et ben c'est pas du tout le cas dans le Slack. Je vous invite à aller y faire un tour et de nombreux patriotes y ont accès. Et il y a plein d'autres petits bonus de ce type-là. Donc si vous appréciez l'émission, que vous voulez la soutenir et que vous voulez des bonus, et ben allez y jeter un coup d'œil. Franchement, je pense que ça vaut la peine. Et puis, avant de refermer cette petite page, je voudrais rappeler aux auditeurs qu'il y a une rencontre en live le 20 octobre. Alors, il y a un podcast live aussi au Paris Podcast Festival, mais ça, vous pourrez essayer de venir, on en parlera plus tard, mais essayez de venir. En fait, il y a un nombre de places limitées, les places réservées sont déjà réservées pour les quelques places que j'avais, mais il y aura quand même d'autres places en plus, donc j'espère qu'il y aura assez de places. Moi, comme je le dis parfois, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de monde, en fait, et que la salle soit à moitié vide. Donc, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, à côté de ce podcast live, il y a la rencontre, notre IRL, notre rencontre podcastique, qui aura lieu juste avant, donc le dimanche 20 octobre, à la Gaîté Lyrique, dans le cadre du Paris Podcast Festival, dans le foyer historique. Donc, on se retrouvera là-bas pour prendre un petit verre. Donc, si vous êtes sur Paris, venez y faire un tour. Ça sera à midi, le dimanche 20 octobre, à la Gaîté Lyrique, dans le cadre du Paris Podcast Festival. Et je vous remercie très chaleureusement de venir si c'est le cas. Parlons un petit peu de l'iPhone. J'en plaisantais sur Twitter, j'ai genre une vingtaine d'articles, de notes pour un sujet qui va faire finalement quelques minutes seulement, parce qu'on va pas parler... En fait, c'est un petit peu tout ce à quoi on s'attendait, ces iPhone 11 et 11 Pro. Les choses notables, c'est que la qualité de la photo de nuit, du mode nuit de l'iPhone 11 Pro, est assez satisfaisante. Et les tests qu'en ont fait les photographes professionnels sont... concluant en ce sens que, contrairement aux photos, au mode photo de nuit qui existait sur les autres appareils, et notamment sur le Pixel 3 qui était très performant, eh bien, la photo conserve cette qualité de photo de nuit et ne passe pas en fait l'image en mode presque jour, qui était ce que faisait le Pixel 3. À voir ce que fera le Pixel 4, peut-être qu'il fera encore mieux à son annonce dans un petit peu moins d'un mois maintenant, mais en tout cas, pour le moment, la qualité de photo de l'iPhone 11 Pro est convaincante. Et d'ailleurs, il y a un photographe pro qui a fait quelques tests et qui a mis des photos incroyables qu'il a pris avec, ce qui a donné lieu à des commentaires assez intéressants sur Twitter, dont celui qui est que les utilisateurs normaux ne peuvent pas faire des photos de ce type parce qu'ils n'ont pas les capacités avec nos smartphones. Et donc, les tests des photographes pro ne valent pas grand-chose. Et je comprends tout à fait cet argument, mais ça m'a amené à la réflexion que c'est sans doute le cas. Mais c'est aussi le cas avec des photographes, des appareils photo professionnels, des appareils photo, des gros boîtiers, des SLR argentiques ou pas argentiques, mais réflexes, des boîtiers réflexes. Je marque mon âge là. Je viens de passer mon anniversaire, ça se sent. Les appareils réflexes. Bah, c'est pas parce que vous avez un appareil réflexe que vous allez tout à coup prendre une bonne photo. Les pros, ils les utilisent, mais ils savent les utiliser. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de passer avec nos appareils photo.
Une bonne photo, c'est pas un problème d'appareil, c'est un problème de sujet et de cadrage.
Non, bien sûr. Vous avez l'œil qui va bien. Non, mais attends, Aounchi, une seconde. Ce que je voulais dire, c'est que on est en train d'arriver pour les appareils. Les appareils photo des téléphones à un niveau qui permet de faire des bonnes photos si on sait ce qu'on fait, de la même manière que c'est le cas avec un appareil réflexe. Mais si on ne sait pas ce qu'on fait, on n'aura pas mieux ni avec un appareil photo classique réflexe, ni avec un appareil photo de téléphone. Mais il n'empêche que celui-là peut faire mieux et il peut faire de mieux en mieux. Mais pardon, Aounchi, tu disais ?
Non, mis à part ce troll gratuit sur, sur une photo. Non, effectivement, Apple, je suis repassé récemment sur un iPhone. Quand on prend une photo avec un Apple, c'est simple. Apple, au niveau de l'image, ils ont cet ADN de restituer, on va dire, les vraies couleurs, les vraies teintes, le vrai moment, pas le vrai moment pris, pas forcément qu'on a monté nous-mêmes avec notre œil, mais grosso modo les vraies couleurs, ce qu'on voit réellement. Et dans la photo de nuit, enfin moi j'entendais exactement ça d'Apple, c'est-à-dire que je veux pas une lumière artificielle. Effectivement, on avait l'impression de lumière artificielle sur les autres appareils photo. Là non, on avait vraiment l'impression de cette lumière presque naturelle qu'on voit de nuit. Et les personnes qui disent oui, on n'est pas des pros, enfin quand on regarde les photos, il y en a une dans une salle de concert ou de théâtre, j'ai pas fait attention exactement ce que c'est, mais on a tous fait des spectacles où on a envie de prendre une photo son copain ou sa copine qui est à côté de soi, et effectivement on a tous notre smartphone dans la poche, et avoir cette fonction de photo de nuit de bonne qualité pour tout le monde, je te rejoins, c'est un plus pour tout le monde. Effectivement, on n'aura pas le cadrage et le choix du sujet d'un professionnel, mais on aura notre choix du sujet où, sur le moment, on aura passé un bon moment dans un concert ou en théâtre, dans une salle, dans la pénombre, avec une personne qui en apprécie, et on prend la photo du moment pour se souvenir de ce moment-là. Et je trouve ça excellent que l'iPhone nous permette de le faire le plus fidèlement possible.
C'est vrai que cette question de fidélité est importante aussi. J'ai entendu quelqu'un dire que sur Android, il y a des constructeurs qui ont soit le meilleur matériel, soit les meilleurs algorithmes. On parle de Google dans le cas des algorithmes, bien sûr. Apple, ils ont un petit peu le milieu pour les deux, de très bons appareils et de très bons algorithmes, mais ils ont cette fidélité en plus. Et quand on pense aux appareils, aux smartphones, c'est l'appareil qu'on a dans sa poche. Et on se dit qu'on veut la meilleure photo possible parce qu'on ne pourra pas la reprendre. Moi, je pense à mon fils. C'est pour ça aussi. Bon, je ne vais pas prendre un iPhone 11 Pro, mais j'en prendrai un l'année prochaine. C'est pour ça aussi, je me dis, c'est des photos que je ne pourrai pas reprendre plus tard. Le moment est passé. Et donc, il y a cette motivation, et la fidélité que tu évoquais à Aounchi est hyper importante. C'est quelque chose de... C'est ce qu'on recherche finalement dans une photo. Et à voir si le Pixel 4, comme je le disais, le 15 octobre, il sera présenté. Pour le moment, l'iPhone a, semble-t-il, repris un petit peu le devant. Mais dans un mois, ça se trouve, ça sera le Pixel 4 qui sera repassé devant. Gaël, Tu as des préférences dans tous ces sujets Apple ?
Sur le téléphone, en fait, moi, je cherche un téléphone qui a de la batterie, qui n'est pas fragile et qui appelle, mais un Nokia 3210, quoi, tu vois.
Bah écoute, les iPhone Pro et même le 11 un petit peu, ils avaient été vendus comme ayant plus de batterie lors de la présentation. Ça aussi, ça a été confirmé. Enfin, plus de batterie, ils durent plus longtemps. Ils avaient fait tout un foin sur le... C'est ça. Ils avaient fait tout un foin sur le processeur, et il est certain qu'il a été amélioré, qu'il est plus économe, etc. Mais ils ont aussi entre 18 et 25% de batterie en plus. Donc forcément, ça dure plus longtemps, c'est confirmé. Ouais.
Non, mais moi, je ne suis pas en Finlande, donc je n'ai pas besoin de photos de nuit tout le temps, tu vois.
L'hiver arrive, ouais, c'est ça.
Non, je trouve ça très bien, mais effectivement, photo, moi, je suis tellement mauvaise photographe que du coup, c'est pas le feature qui va me faire prendre le nouvel iPhone. Voilà. Donc,
bon. Donc mais c'est le truc qui est de plus en plus mis en avant, parce que tout le reste, finalement, on est arrivé à un plateau, quoi. Donc, c'est de plus en plus mis en avant sur tous les nouveaux smartphones. Et je suis certain que le Pixel 4 aura lui aussi son petit moment. Voilà notre mode amélioré Night Mode qui prend d'encore meilleures photos, quoi. Bah justement, puisqu'on parle de smartphone, avant de passer à une autre nouveauté du Pixel 4 qui a été super leakée, parlons du Huawei Mate 30 Pro, qui est au-delà des capacités techniques qui ont été détaillées, très bon téléphone, bonne qualité, etc. Il n'a pas Android avec les services Google. Et c'est le premier qui subit les conséquences de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il n'y a pas d'application Google sur le téléphone. Entre parenthèses, le téléphone ne sera... On n'a pas la garantie qui sera lancée en France encore. Donc, c'est une explication un petit peu théorique qu'on fait là encore. Mais Huawei a déjà dit... vous inquiétez pas, si vous voulez débloquer le téléphone et installer une autre version d'Android, vous pourrez, ça ne sera pas un gros problème. Mais bon, voilà, c'est le premier téléphone qui arrive. Alors, il a bien Android, mais pas les services Google, parce que Google n'a plus le droit de travailler avec Huawei notamment. Et donc, on évoquait le Pixel 4, il y aura une autre nouveauté sur le Pixel 4, à en croire les rumeurs, mais bon, elles se font persistantes, c'est la possibilité de le contrôler avec des mouvements de la main, c'est leur fameux projet Soli, qui est une sorte de Face ID / Kinect, pour ceux qui connaissent, mais donc on pourra contrôler avec la main en passant la main devant, c'est pas les premiers à le faire, mais ils implémenteront ça dans leur prochain Pixel, à voir si ça sera vraiment utile. On continue, je vous redonne la parole dans un instant, mais je finis sur ces quelques sujets téléphonico-gadget. Google est en train de sortir un téléphone en Inde, si je ne m'abuse, où on peut, c'est un feature phone, donc un téléphone très bon marché, mais on peut téléphoner avec le téléphone à Google Assistant. Et on pourra parler à Google Assistant en hindi ou en anglais. C'est des téléphones sur lesquels on n'a pas d'assistant vocal parce qu'ils sont vraiment des téléphones basiques. Et bien là, on peut téléphoner littéralement, utiliser son téléphone pour téléphoner et poser une question à Google Assistant. C'est un moyen intéressant, j'ai trouvé, d'amener leur produit Google Assistant, qui est très high-tech, dans des marchés qui sont un petit peu moins poussés au niveau des fonctionnalités. Et enfin, on entend encore des rumeurs selon lesquelles Facebook serait en train de travailler sur des lunettes de réalité augmentée avec Luxottica, qui est la firme qui a, je crois, Oakley. Et ça serait en développement pour un lancement vers 2023-2025. Mais donc, c'est encore un autre géant de la tech qui travaille à des lunettes de réalité augmentée. Bon, ça fait un gros morceau. Avant de continuer avec Netflix et YouTube, etc., est-ce que parmi ces sujets, Huawei, Pixel 4, téléphone, appel Google Assistant, il y a des choses qui vous ont marqué, Gaëlle ?
Non, on n'en a pas parlé, mais le nouvel iOS 13 est intéressant. Je ne sais pas si tu l'as...
Ah ben moi, j'ai installé la bêta il y a bien longtemps, oui.
Mais sur je vais parler des sujets qui me passionnent, sur les settings de confidentialité et de sécurité sont assez intéressants, je trouve, et notamment sur les pop-up un peu qui montrent que tu es en train d'être localisé à ce moment-là, que tu peux choisir d'être localisé juste une fois par une appli, que tu peux utiliser du coup l'Apple ID et donc du coup ça donne un email qui n'est pas le tien à la place du tien justement quand tu veux sign in sur un site en particulier, etc. Donc voilà, je trouve que les settings de privacy de l'iOS 13 sont plutôt plutôt intéressants à tester. Voilà, ouais. C'était mon point sur le téléphone, sinon je reste sur le Nokia 3210.
Mais toi, c'est quoi ton téléphone
je suis sur un iPhone, mais le 5 en fait, donc moi j'ai pas bougé.
Le 5, ah oui, non mais c'est presque un 3210 en fait.
Mais c'est presque, non mais tu sais pourquoi, à cause de la taille, parce que c'est le plus petit du marché. Et moi, j'en veux un tout petit qui rentre dans ma poche.
Mais attends, un iPhone 5, t'es pas sous iOS 13, toi, tu dois être sous iOS 11 ou un truc comme ça.
Non, je viens de passer au 13, du coup.
Et ça tourne quand même ?
Ça tourne.
Ça a pas trop fait ralentir le système ?
Pour l'instant, ça va.
D'accord. Bon, bah, très bien, très bien. C'est un 5 ou un 5S ? Un 5, carrément ?
Un 5S, non, 5S.
Ah, quand même, d'accord. Oui, bah, mais quand même, d'accord. Aounchi, quelque chose que ça t'inspire, tous ces nombreux téléphones ?
Ah bah, l'expérience de Google en Inde, je ne sais pas si vous connaissez la marque Vertu dans les téléphones. Mm-hmm. Ce téléphone a une conciergerie. C'est-à-dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez une conciergerie. Donc Google a inventé la conciergerie pour tout le monde, en fait.
Ouais.
Tout simplement. Et j'avais plus qu'à savoir s'ils vont répondre aussi bien que la conciergerie quand on cherche quelque chose. Mais non, je trouve que quelque part, enfin, j'en rigole, mais je trouve ça l'idée intéressante. On a pas fort, parce qu'il ne faut pas oublier que la data, même si on est dans des pays où la data est partout, il y a des zones où il n'y a pas de data.
Non, et puis surtout, c'est une question de téléphone, de modèle de téléphone, quoi.
Oui, mais moi, je suis bien sur la fonction de pouvoir appeler l'assistant. Ouais. Effectivement, le modèle téléphone.
C'est plus efficace que le 118-218, rassure-moi.
Oui, bah, j'espère bien, c'est Google derrière, pas 118-218.
Oui, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est comme l'assistant qu'on a sur son téléphone quand on appuie et qu'on dit le mot-clé, qu'est-ce que tu fais, sauf que là, on l'a au téléphone. Ouais.
Donc, non, je trouve ça la fonction extrêmement intéressante. Après, sur le Huawei, bah oui, c'est le Huawei sacrifié, j'ai envie de dire, celui-ci. La question va être comment va réagir Huawei, parce que c'est le premier téléphone qu'ils ne vont pas pouvoir vendre sur le marché occidental. Le marché occidental, surtout européen, représente une part non négligeable du chiffre d'affaires sur les téléphones mobiles de chez Huawei. Donc comment est-ce qu'ils vont réagir ? C'est ça qui est extrêmement important, puisque il me semble que l'Europe représente 30% du chiffre d'affaires de Huawei en mobile. Donc ne pas sortir un téléphone mobile en Europe, c'est pas anodin pour Huawei. Donc ils vont forcément réagir. En ce moment, ils sont en train de draguer gentiment les développeurs pour avoir leur store et autres. Et et je pense qu'on commence à voir les premières conséquences de cette guerre commerciale avec cette scission.
Ah, ça, c'est sûr. Oui.
Chine, États-Unis.
Bon, parlons un petit peu de Netflix, qui est en train de sentir la pression des concurrents qui arrivent enfin. Netflix a eu sur le marché du streaming de vidéos, on va dire, presque 10 ans d'avance, 7 ou 8 ans d'avance sur tout le monde. Et ben maintenant, la fête est un petit peu finie. Et d'ailleurs, même Reed Hastings a dit dans une interview, maintenant, c'est un nouveau monde dans le streaming. Leur action a baissé. Même s'il y a des marchés sur lesquels ils augmentent leur nombre d'abonnés, comme la France notamment, de manière assez significative, on n'est plus dans le même monde pour le streaming de jeux vidéo, pour le streaming de vidéos. Et bah, c'est une nouvelle étape qui commence, à voir si Netflix aura les reins assez solides, parce qu'ils investissent beaucoup et ils ont beaucoup de dettes depuis le début. Avec les nouveaux acteurs, on pense évidemment à Disney, mais il n'y a pas que. On ne sait pas comment ça va se passer pour eux. Pendant ce temps, YouTube continue à essayer de contenter tout le monde. Ils sont plus dans un domaine qui est comparable à celui des réseaux sociaux où on a des créateurs de contenu qui sont difficiles à gérer puisqu'ils sont tellement nombreux. Ils avaient pris une décision sur la vérification des chaînes. Jusqu'à maintenant, c'était lié à un nombre d'abonnés où les chaînes étaient vérifiées et ils voulaient passer à un système où c'était uniquement les chaînes qui en avaient besoin, c'est-à-dire qui avaient besoin de certifier leur authenticité, si c'était quelqu'un de connu ou une chaîne, une société, etc. Et il y a eu une telle levée de bouclier des utilisateurs pour qui le fait d'être certifié avec le petit, vous savez, c'est juste le petit checkmark, hein, le petit check à côté du nom, c'était une sorte de validation de leur travail et le fait qu'ils perdent cette certification, cette vérification, était pris comme un affront, vraiment. Il y a une levée de bouclier qui a fait que YouTube a fait marche arrière et donc ils ne vont pas supprimer la vérification à ceux qui l'avaient déjà. Mais là où ça m'intéresse plus, c'est... où est-ce que, d'où venait cette décision de YouTube ? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir faire ça ? C'est peut-être simplement le fait de se dire, quand il y a quelque chose de critiquable qui se passe avec une chaîne qui est certifiée, eh ben, ça donne un petit peu l'impression que YouTube approuve. Donc on fait marche arrière et on rebrande, recadre la signification de cette vérification. Bon, c'est une décision qui, je crois, est compréhensible, mais il faut prendre en compte l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin, Amazon serait en train de travailler à un service de musique haute qualité pour 15 $ par mois. Ça serait aux États-Unis dans un premier temps, 15 $ par mois ou seulement 13 pour les abonnés Prime. Je pense que le marché est mûr pour avoir des offres. Il y en a déjà chez certains. Je crois même que Spotify, si je ne me trompe pas, a une offre un petit peu meilleure qualité qui ne satisfait certainement pas les audiophiles parmi nous. Mais je pense que le marché commence à être mûr et je suis surpris même que ça ait pris aussi longtemps. Donc bon, sur ces trois sujets, Netflix, YouTube, Amazon, quelque chose à ajouter parmi vous, Gaël ?
Écoute, tu dis les choses tellement bien, Patrick. Non, pas
c'est
forcément.
Tout un métier.
Mais oui, on ne peut pas te remplacer. Rien de plus à ajouter que qui serait intéressant. Donc,
d'accord.
Mais c'est des sujets intéressants.
Quoi d'autre ? Alors, tiens, on va pas passer 2 heures dessus non plus, mais Amazon, justement, a déclaré vouloir a déclaré vouloir réduire ses émissions carbone complètement, de les réduire à zéro d'ici 2040. C'était à l'ONU dans le cadre des discussions sur le climat, etc. Ils ont commandé une centaine de milliers de vannes électriques, c'est le cas aux États-Unis, etc., etc. D'un autre côté, il y a Google qui a critiqué un petit peu la chose et qui fait des investissements en Europe pour des data centers, notamment... en Finlande d'ailleurs, donc ça m'a évidemment tapé dans l'œil, mais d'une manière générale, cette décision ou cette déclaration d'Amazon, c'est du greenwashing, c'est des déclarations pour apaiser les gens et en fait, ça ne va pas donner grand-chose. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Gaël, je vois que tu t'es démuté, je donnerai la parole à Aounchi après.
Je pense qu'il y a forcément du greenwashing, comme tout le monde le fait. Après, je pense qu'il y a aussi un argument économique long terme. Je pense que ça leur coûtera moins cher à long terme d'avoir que de l'électrique. Donc, au-delà du greenwashing, je pense que c'est dans leur intérêt économique d'aller faire ça.
Oui, je pense qu'il y a tout à fait de ça. Aounchi, tu es du même avis ?
Ouais, je suis du même avis. Pour moi, c'est du greenwashing et l'intérêt économique pour Amazon. Il ne faut pas, pour moi... Parlons d'Amazon, je vois pas l'intérêt en fait, c'est pas du tout pour être plus écologique, parce que c'est bête, mais on se rend compte que des fois d'être plus écologique, c'est juste de garder un produit plus longtemps et de le réparer. Seulement, bah, si je garde un produit plus longtemps, je le rachète pas chez Amazon.
Donc écologique, mais pas trop, quoi.
Voilà, c'est plutôt une logique économique. Et effectivement, de toute façon, on sait très bien que l'électrique, on va tous y arriver à un moment donné. Après, est-ce que ça peut donner, parce qu'une grosse société comme Amazon achète en masse des choses, peut donner une impulsion à cette industrie, bien évidemment, et ça, on va dire, c'est l'effet bénéfique. Mais l'effet bénéfique sur Amazon en elle-même, il est, pour moi, il est clairement purement économique.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, bien sûr, il y a de ça, et puis 2040, il faut espérer que les énergies renouvelables seront effectivement économiquement intéressantes, parce que je crains que malgré les nécessités, les réalités font que ça continuera à poser des problèmes si ce n'est pas le cas. Entre parenthèses, les accords de Paris, c'est 2050 pour être neutre, pour la neutralité carbone. Donc Amazon veut le faire 10 ans plus tôt que ce que préconisent les accords de Paris. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de pression en interne et en externe qui font que ça reste dans l'intérêt d'Amazon, dans l'intérêt économique et dans l'intérêt au niveau de l'image aussi. Et je crois qu'on a tendance à minimiser l'importance de l'image en disant « Ah, mais ils font ça que pour l'image, donc ça n'a pas de valeur. » Mais je crois que ce n'est pas de bonté d'âme qu'ils le font. Évidemment, ce sont des sociétés et on sait que généralement, une société ne fait rien par bonté d'âme. Mais c'est l'image, c'est la traduction de la volonté des utilisateurs, des clients potentiels, du marché, de la pression qu'exercent les utilisateurs finaux sur les marchés, sur le cours de l'action. Et donc, ça a une conséquence sur les agissements des sociétés. Et évidemment que la législation et l'action des États devraient être le levier principal et contraindre les sociétés à faire ce qu'il faut qu'elles fassent, on est tous d'accord, mais la pression des utilisateurs à travers les questions d'image et de marché et tout simplement cette pression peut les conduire à infléchir leurs agissements, et ça aussi, c'est aussi comme ça que fonctionnent les choses dans notre monde. Donc, c'est pas qu'il faut leur faire une fête au village et leur offrir des cadeaux et des gâteaux, quoi. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus qu'ils prennent cette décision, à condition que ça se fasse vraiment, évidemment. Mais comme vous le disiez, c'est dans leur intérêt aussi économique de le faire. Donc, je pense.
Non, mais vive le greenwashing. Hein. Enfin, je suis pas du tout contre le greenwashing, comme tu dis. Autant que les industries le fassent, et tant mieux. Ça, enfin, l'intention n'est peut-être pas juste d'être écolo. L'intention est peut-être autre, et c'est peut-être juste de l'image. Mais le résultat est là. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux.
Oui, le greenwashing, évidemment, quand il s'agit de faire des choses pour avoir l'air écolo et pas juste de prétendre qu'on a fait des choses. Hein.
C'est vraiment de faire, pas juste dont on parle. Non, c'est de faire les choses, on est d'accord.
Allô Gaëlle, on a besoin de toi tout de suite.
Oui.
Tu viens deux derniers petits sujets sur lesquels je vais passer très rapidement. Si vous pensiez que le monde était merveilleux, je vais vous faire redescendre d'un petit cran tout de suite. En même temps, pas forcément, hein, mais c'est le capitalisme débridé d'une part et le communisme débridé d'autre part. D'un côté, on a Legalist, qui est une société qui finance des procès, c'est aux États-Unis, hein, c'est très américain ce type de processus, je ne pense pas que ça serait possible ici, mais qui finance des procès en calculant, grâce à des algorithmes et différents facteurs qui sont pris en compte, en calculant la possibilité de retour sur l'investissement, donc ce financement de procès, avec un settlement en français un accord, en fait, à l'amiable entre les parties du procès. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un plaignant, ils vont financer ses avocats pour le procès et ils vont espérer avoir un accord à l'amiable où la personne qu'ils ont attaquée au procès va payer le plaignant et ils vont prendre une partie de cette somme. C'est marrant parce que j'ai vu ce système dans une série qui s'appelle The Good Fight, très très bonne série d'ailleurs sur HBO, et je me disais, mais ça c'est genre, c'est un truc de série télé quoi, ça existe pas. En fait, si, ça existe, et c'est bon, c'est un truc quoi, je sais pas vraiment ce que j'en pense, mais c'est là. Et l'autre truc de l'autre côté du spectre, c'est la Chine. Vous connaissez le système de crédit social, eh bien ils ont étendu le système de crédit social aux sociétés. C'est-à-dire que c'était déjà un système qui allait attribuer aux citoyens un score qui leur permettrait ou non de prendre le bus, d'avoir des allocations, etc., en fonction de leurs agissements et de leur, entre guillemets, patriotisme. Et bien maintenant, c'est le cas aussi pour les sociétés. Il y en a 33 millions, dont des firmes américaines, qui sont affectées par ce système de crédit social pour les sociétés. Et l'un des facteurs, si je sais qu'il y a certains auditeurs qui se disent « Ah mais non, c'est très bien ce système de crédit social, voilà, au moins les gens font les choses bien, quoi. » Ce système, il y a un des facteurs qui est, par exemple, au hasard, la position de la société par rapport aux problèmes comme Taïwan. Donc, c'est la formalisation d'un truc qui existait peut-être déjà, mais qui est formalisé de manière automatisée, informatisée, etc., si vous voulez, même en tant que société, plus seulement en tant que citoyen, si vous voulez être sur les clous vis-à-vis du gouvernement chinois, bah, vous avez intérêt à dire ce qu'il faut sur des sujets politiques, géopolitiques, etc. Alors, c'est juste une formalisation d'un truc qui existait déjà, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, quoi. Voilà pour l'égaliste et le système de crédit social. Si vous avez un commentaire, c'est le moment. Sinon, on conclut.
Le crédit social, je pense, est la solution au problème de Facebook et des contenus malveillants.
Excellente conclusion.
Un crédit social de Facebook. Le jour où ils auront la monnaie, le système judiciaire et pourquoi pas une police, hein, ça sera l'étape suivante. Moi, je pense qu'on pourrait mettre ça en place de manière très, très efficace. Donc, merci à Unchi. Encore une fois, on devrait s'inspirer de Facebook. Bon, très bien. Et ben, merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Avant de se quitter, j'aimerais vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Aounchi, toujours sur Twitter, c'est ça ?
Toujours sur Twitter et éventuellement aussi le 20 octobre.
Ah, super, tu seras là.
Bien sûr.
Je compte sur toi, comme d'habitude, le 20 octobre, comme on le disait, à la Gaîté Lyrique, au podcast Paris Podcast Festival. Gaël, que se passe-t-il chez Coud ?
Écoute, donc on peut suivre Coud sur coud_fr, on peut aller sur le site coud.fr, et puis j'en profite très rapidement pour dire que Coud recrute. Donc si il y a des gens que ça intéresse, l'éducation numérique et justement de faire un peu le décryptage de la tech et du numérique pour les jeunes au travers du jeu, ben on recrute du game designer, du développeur, on prend aussi du freelance, donc si ça vous intéresse, écrivez-nous sur @coud.fr. Tous les posts sont postés sur notre site, sur Facebook, sur LinkedIn, partout. Donc voilà.
Coud.fr comme point de départ, et vous verrez s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Super! Merci Gaël. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr. Nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de pas très intelligent, bien sûr, en commentaire. Ou alors la financer sur patreon.com/rdvtech. Et petite anecdote comme ça en passant, c'était très en retard, mais je viens de m'abonner à différents groupes de presse généraliste. J'ai fait le Monde, le Figaro et Mediapart, et je me suis abonné, et c'est marrant, j'ai dit ça sur Twitter, il y a des gens qui sont pas contents, des gens qui étaient pas contents sur Mediapart, des gens qui étaient pas contents sur le Figaro, des gens qui étaient pas contents sur le Monde, enfin c'était bon, bref, si vous voulez savoir qu'il y a rien au monde qui fait la l'unanimité, vous pouvez tweeter un truc, quoi que ce soit, vous aurez quelqu'un qui vous dira qui vous dira que c'est pas bien.
La Terre n'est pas plate.
Voilà, exactement. Si tu vas dire que la Terre est ronde, il y aura des gens pour t'expliquer qu'elle
est plate. Je sais, c'est pour ça.
Et donc, je me suis abonné, c'est simplement parce que même si l'Internet est formidable, fantastique, il y a une chose qui ne fait pas très bien, c'est rémunérer le vrai journalisme et le vrai travail de qualité. Je trouve que ce n'est pas idéalement fait sur Internet, et donc je me suis dit, je vais m'abonner et ça va aider un petit peu. Et je me suis rendu compte que pour se désabonner, quand je l'ai tweeté, il y a d'autres personnes qui m'ont dit ça aussi, généralement, il faut envoyer un courrier physique. Alors, il y en a qui sont sympas et qui vous le font, même si vous envoyez un mail ou même si vous les appelez au téléphone. Mais c'est vraiment l'ancien monde, quoi. Il faut envoyer un courrier physique pour se désabonner, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, comme je le disais, je le fais pour soutenir le journalisme, donc ça ne va pas m'arrêter. Mais je vous rassure, sur Patreon, ce n'est pas du tout le cas. Vous vous abonnez, vous désabonnez absolument quand vous voulez. D'un instant à l'autre, vous pouvez vous abonner ou vous désabonner quatre fois de suite.
Non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas se désabonner. si on se désabonne, il y a un problème, le bouton bug, on est obligé de s'abonner.
Je suggérais ça justement sur Twitter quand ils me l'ont dit, je me suis dit, je devrais m'en inspirer. Pour se désabonner du soutien au Rendez-vous Tech, il faudrait venir me donner la lettre de désabonnement et un bouquet de fleurs en main propre, chez moi. Sinon, ça ne marche pas, désolé. C'est un système, c'est précisé dans les petites lettres en bas. Mais non, Patreon,
ton adresse est en Patreon ou pas? Parce que j'ai envie de me désabonner, du coup.
Tout à coup, ouais, c'est ça. Non, c'est très simple, sur le site directement, vous abonnez, vous choisissez la somme, le nombre d'épisodes que vous soutenez, et vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Donc Patreon, encore une fois, le meilleur système de soutien qui soit. Et évidemment, même aujourd'hui, le Rendez-vous Tech n'existe pas sans Patreon, et c'est lui qui me donne mon indépendance. Donc merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. On vous fait de grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried 3 other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. With the drag and drop theme editor, we don't need to hire a developer to do any coding. Each theme is automatically optimized on mobile. It's incredible.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.